bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une grâce suprême que de se trouver dans la maison du Seigneur, entouré, enveloppé de son amour. Nous poursuivons notre lecture dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 21. Dans Éphésiens 5. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le titre de notre message de ce matin, le couple selon Dieu. Et j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le thème suivant, les relations homme-femme à l'intérieur du couple. L'être humain, créé à l'image de l'être divin, s'est détourné de son Créateur. Ainsi, en s'égarant loin de l'Éternel, il se prive de la présence de Dieu. Par conséquent, désormais seul, sans lumière dans la nuit de ce monde, l'homme s'est laissé assujettir par le mal, ce mal diabolique qui l'a entraîné dans le péché et la mort. Son être intérieur a été complètement détruit. Sa pensée est maintenant régie par le mal. Sa volonté est asservie au mal. Ses émotions sont perverties par le mal et sa conscience totalement désorientée par rapport à son but premier. Bref, l'homme créé à l'image de Dieu a été entièrement défiguré par le mal. En un mot, il est mort spirituellement, voué au péché et condamné à porter les conséquences de sa révolte envers son Créateur. Il devra vivre sans Dieu, sans paix, sans pardon dans ce monde dur et froid, gouverné par Satan, le prince des ténèbres. Et celui-ci cherchera donc par tous les moyens à maintenir l'homme sous sa domination et à le conduire à la mort éternelle, car pour lui, la fin justifie les moyens. Et justement, en ce qui concerne les rapports homme-femme, Dieu a averti nos premiers parents au sujet du péché qui a bouleversé l'ordre relationnel établi par Dieu. La femme, au lieu de conserver son statut initial, voudra prendre la place de l'homme, mais l'homme dominera sur elle, contrairement à sa vocation créationnelle. Telle est la terrible conséquence du péché, et l'histoire de l'humanité montrera à quel point les résultats du mal sont mauvais et méchants, anéantissant pour toujours l'œuvre merveilleuse de Dieu, en plongeant le monde dans le drame du péché et de la mort, faussant et déréglant toutes les normes relationnelles voulues et établies par Dieu. Pas étonnant dès lors qu'au fil des siècles, des millénaires, que les rapports hommes-femmes se soient envenimés, se soient dégradés au plus haut degré, de telle sorte que d'innombrables conflits ont surgi, brisant des mariages, détruisant des familles, engendrant dans la société humaine les dérives que l'on sait, la violence, la haine et la mort. Actuellement, dans notre société dite civilisée, les déviations et les débordements de toutes sortes sont monnaie courante. La morale chrétienne est décriée, les principes et les pratiques relationnelles bibliques sont bafoués, les rôles masculins et féminins sont inversés ou interchangés, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Bref, c'est le monde à l'envers. Les repères ont disparu, il n'y a plus de retenue. Dans cette confusion incroyable, mais aussi abominable, comment comprendre la volonté de Dieu pour l'homme? Comment mettre en pratique correctement l'ordre du Seigneur qui veut que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle? Oui, comment? En effet, comment surmonter cette tendance humaine, naturelle, pécheresse, qui fait que l'être humain, homme ou femme, soit voué à lui-même, centré sur lui-même, tourné vers lui-même, en ce sens que l'homme inévitablement veut dominer sur la femme, et que la femme, en contrepartie, cherche à prendre la place de l'homme à cause du péché. Rappelons-nous tout d'abord que le commandement de la soumission réciproque est adressé à des chrétiens remplis de l'Esprit. Car il est impossible qu'un être humain non régénéré et non conduit par l'Esprit puisse mourir à lui-même et obéir au Seigneur conformément à sa volonté, en suivant l'exemple de Christ qui s'est donné lui-même. Comment voulez-vous qu'une femme se soumette à son mari comme son mari se soumet au Seigneur si ni l'un ni l'autre sont en Seigneur et que, esclaves de la chair, ils font naturellement le contraire de ce que prescrit le commandement de Dieu? D'ailleurs, les chrétiens eux-mêmes, s'ils ne se laissent pas remplir par l'Esprit au point de recevoir la force de lui, la force, la sagesse et la puissance divine qui les délivre de la loi, du péché et de la mort, afin que la justice de Dieu soit accomplie en eux, sans l'Esprit donc, les chrétiens eux-mêmes ne peuvent pas se soumettre à Christ. Finalement, Dieu, que veut-il vraiment à l'égard du couple chrétien? Il veut précisément que le mari reprenne sa place au sein du couple et assume ses responsabilités, et que la femme de même garde sa place aux côtés de son mari et assume les responsabilités qui sont les siennes selon le plan de Dieu pour chacun des conjoints. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mais quelqu'un a dit, dans l'humour, mais il reste quand même deux têtes. Seulement, que signifie exactement l'ordre de Dieu qui dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église? Et que la femme doit se soumettre à son mari comme il convient dans le Seigneur. Pour mieux comprendre la pensée de Dieu, il est nécessaire d'apprendre à connaître Dieu de mieux en mieux, de sonder dans les Écritures les enseignements qu'il nous donne au sujet de lui-même, de la relation intime et profonde qui existe dans la Trinité divine, afin que nous puissions saisir son raisonnement, discerner sa volonté et la mettre en pratique conformément à l'exemple de Christ, qui en tant que modèle, et pour le mari et pour la femme, a consciemment et volontairement renoncé à lui-même et à tous ses droits. Mais par où commencer ? Ceci nous amène à notre premier point que j'intitule « La relation filiale entre Dieu le Père et Dieu le Fils ». Premièrement, commençons par rappeler que le Père est l'initiateur de toutes choses, que le Fils est le réalisateur de toutes choses et que le Saint-Esprit est le communicateur de toutes choses. Dieu le Père donc est le chef de Christ, Dieu le Saint-Esprit est soumis au Père et au Fils, puisqu'il communique aux élus ce qui est du Père et du Fils. Autrement dit, le Père ordonne, le Fils exécute, et le Saint-Esprit, qui est en même temps qui est en même temps l'Esprit du Père et du Fils, transmet à qui de droit la parole du Père et du Fils, de telle sorte que finalement, l'unité et la diversité spirituelle inhérente à la Trinité divine soient toujours évidentes, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, et c'est ici le mystère de l'être divin en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Quoique cette hiérarchie à l'intérieur de la Trinité divine soit incontestable, les relations entre les trois personnes de la Trinité sont si harmonieuses, si paisibles, si douces, si cohérentes, que l'on dirait que cet ordre trinitaire structuré n'existe pas. Quel est ce mystère? Ce mystère, c'est l'amour. Ce mystère, c'est l'amour agapé. Et c'est l'amour agapé que l'Esprit veut nous transmettre. C'est de cet amour divin que le Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils, veut remplir notre cœur, afin que nous marchions dans la lumière de Dieu et dans l'amour de Dieu, nous soumettant les uns aux autres dans la vérité, de telle sorte que la réalité de l'autorité voulue par Dieu et donnée aux uns ne soit pas un obstacle à la soumission des autres, soumission également voulue par Dieu. Prenons l'exemple de Dieu Père et Fils, qui dans leur relation filiale sont le modèle des relations à l'intérieur du couple. Dieu le Père a réellement ordonné à Dieu le Fils de descendre sur la terre et de mourir sur une croix afin d'ôter le péché du monde, puisque le Fils a répondu « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Et en Gethsémané, il a dit « Seigneur, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». D'autre part, l'Écriture affirme que Jésus n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie à arracher, mais qu'il s'est humilié lui-même, qu'il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant comme un vrai serviteur jusqu'à la mort de la croix. Comment le Père peut-il ordonner au Fils quelque chose que le Fils a déjà pris sur lui, librement et volontairement? À quoi sert alors la hiérarchie? Le Fils fait-il ce qu'il veut sans se référer au Père? Ordre contre ordre, désordre, comme on disait à l'armée? Que signifie cela? Mes chers amis, c'est ici la manifestation suprême et extrême de l'amour agapé. De l'amour qui est en Dieu, Père, Fils, amour qui les habite et les anime éternellement. Car cet amour agit en eux de telle sorte que le Fils n'a aucune peine à obéir à son Père. Tant l'amour de son Père est immense et infini à son égard. Ainsi, constamment immergé et environné d'un amour si grand et si parfait, le Fils ne perçoit pas les ordres de Dieu comme une corvée, ni comme une contrainte. Mais comment? Vous êtes bien assis? Comme une joie, un bonheur de faire plaisir à son Père. Et bien entendu, Dieu son Père le lui rend abondamment, puisqu'il était en lui et avec lui pour réconcilier le monde avec lui-même. En un mot, le Père fait en sorte que sa volonté soit sans autre forme de procès acceptée par son Fils, qui considère la volonté du Père comme sa volonté propre. Puisqu'il ne cherche pas à revendiquer son égalité divine avec le Père, mais dira au monde, ma nourriture, mon pain de chaque jour, c'est de faire la volonté de mon Dieu et de mon Père qui est dans les cieux. Et Dieu le Père, uni à Dieu le Fils, par un amour inconcevable et insaisissable à l'esprit humain, rendra l'obéissance du Fils précieuse à ses yeux. Il acceptera son sacrifice sanglant comme un don éminemment agréable et le récompensera en conséquence en l'établissant Seigneur à la gloire de Dieu le Père et en le faisant asseoir à la droite de sa majesté divine. Frères et sœurs, qui peut comprendre cela? Si vous comprenez, dites-le-moi. Et pourtant, c'est ainsi que Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Il s'est dépouillé de ses prérogatives divines, s'est abaissé lui-même, s'est humilié lui-même. Il s'est fait homme, rendu obéissant comme le seul vrai serviteur de l'Éternel. Il a souffert la croix, méprisé la honte qui s'attache à la croix. Tout cela et plus encore en vue de la joie qui lui était réservée dans les cieux. Waouh ! C'est ainsi que, dans leur relation filiale intime et profonde, l'amour agapé est la source de la vie divine, la lumière céleste qui éclaire leur commune union, la joie, la paix qui aborde et surabonde encore et toujours, motivant, amplifiant leur relation réciproque et dominant leur volonté propre sans jamais amoindrir de quelque manière que ce soit l'ordre hiérarchique établi depuis toujours. Allez comprendre. En effet, c'est ici l'humilité de dire devant le Seigneur, Seigneur mon Dieu, je comprends que je ne comprends pas tout. Telles sont les dimensions et la puissance infinie de l'amour agapé, et tels sont les ordres de Dieu à l'égard du mari qui est appelé à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. On pourrait développer encore longtemps ces quelques réflexions sur la nature de la relation entre Dieu, Dieu Père et Dieu le Fils, mais en ce qui concerne notre sujet, je pense que l'essentiel a été dit. Que le secret d'une relation homme-femme, selon Dieu, a été mis en évidence et qu'il est temps maintenant de passer du modèle divin à la réalité humaine. Et ceci nous amène à notre deuxième point que j'intitule « La relation capitale et vitale entre le mari et la femme ». En ce qui concerne cette relation matrimoniale, il y aurait énormément de choses à dire, mais pour cette petite série de messages, je me limiterai à l'indispensable, sans négliger quelques détails importants de la vie pratique et journalière. Et le premier élément de cette relation capitale et vitale entre le mari et la femme s'appelle ou s'intitule la connaissance par excellence. Ou savoir ce que Dieu veut. Il y aura plus tard encore deux éléments, l'obéissance par excellence, vouloir ce que Dieu veut, et la puissance par excellence, pouvoir ce que Dieu veut. Pour aujourd'hui, la connaissance par excellence, ou savoir ce que Dieu veut dans la relation entre le mari et la femme. La perfection du modèle divin ne doit pas nous décourager, mais au contraire nous motiver pleinement à réaliser l'ordre divin dans notre couple, malgré la faiblesse inhérente à notre nature humaine, charnelle et pécheresse. Pourquoi ? Parce que l'amour agapé qui anime Dieu le Père et Dieu le Fils dans leur relation mutuelle est le même amour vivant et puissant que versons-nous l'Esprit. Et l'Esprit veut et peut nous rendre capables, dans notre mesure à nous, selon la plénitude qui nous habite, de suivre Christ dans son obéissance. À ce stade de notre réflexion, il n'est peut-être pas inutile de rappeler ce qu'est l'amour, l'amour agapé, sachant que la notion de l'amour divin, plus ou moins voilée par la pensée purement humaine sur le sujet, a souvent été, trop souvent hélas, déformée, dénaturée, même carrément débarrassée de son contenu biblique, à tel point qu'il est nécessaire actuellement de redéfinir ce mot si nous voulons être compris. En effet, il faut le dire et le redire, il n'y a pas un mot de la langue française qui a été autant galvaudé, vilipendé, traîné dans la boue de la débauche humaine, utilisé à tort et à travers, mêlé à tous les objets privés, publics, politiques, économiques, religieux et que sais-je encore, qu'il est quasi impossible de distinguer dans le langage courant le vrai sens du mot « amour ». D'où vient donc le mot agapé? Le mot agapé est exclusivement biblique. Il a été forgé tout exprès par les auteurs inspirés afin que l'on puisse faire la différence entre l'amour qui vient de Dieu et l'amour humain, sentimental, émotionnel, l'affection naturelle, l'amour fraternel, l'amour maternel, l'amitié et l'amour charnel. Le vocabulaire biblique utilise trois mots pour spécifier de quel amour il s'agit. Eros, pour l'aspect sensuel et charnel de la relation conjugale au sein du couple humain. Philia, pour l'aspect sentimental et émotionnel de la relation humaine en général, l'affection naturelle, la tendresse, la communion familiale, l'amitié, la fraternité et plus encore, mais toujours sur le plan humain. Et puis, agapé, pour l'amour strictement divin, dont la nature est uniquement et entièrement spirituel. C'est donc de l'amour agapé que Dieu veut combler ses enfants, et c'est l'évidence même afin qu'ils s'aiment les uns les autres, conformément à sa volonté à leur égard, d'une manière spirituelle et non charnelle. Par conséquent, il faut le rappeler, et le rappeler encore, l'amour agapé n'est pas humain, il n'est pas en l'homme. La nature humaine, charnelle et pécheresse, est incapable de produire cet amour divin, même pour le chrétien régénéré. Et cela à aucun moment et d'aucune manière. L'Écriture est formelle à ce sujet. Elle affirme que même si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ce texte est très connu. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis presque rien. Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, sous-entendu l'amour agapé, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour, sous-entendu l'amour agapé, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Ça vous suffit? J'ai mentionné 1 Corinthiens 13. Dans ce passage, Paul démontre 2 choses extrêmement importantes qui éclairent notre propos. Et pardonnez-moi si je souligne encore une fois. Première chose que Paul démontre, la nature divine de l'amour. Paul, apôtre de Jésus-Christ, démontre clairement que la nature de cet amour qu'il présente est divine. Car cet amour est radicalement contraire à la nature humaine. En effet, quel homme, naturel ou spirituel, pourrait, sans l'Esprit de Dieu, manifester un tel amour divin et parfait, qui peut tout et qui est plus fort que le péché et la mort? L'amour agapé, donc, comme Dieu lui-même, est tout autre que l'amour purement humain. Cet amour agapé jaillit de son cœur depuis toujours. Il se manifeste dans la Trinité divine ainsi que dans tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu fait. Car Dieu est amour. C'est pourquoi il faut le préciser, l'amour agapé n'est pas, humainement parlant, romantique, ni exotique, ni ésotérique, ni érotique. Il n'est pas non plus sentimental ou émotionnel, ni rationnel selon la pensée humaine. Il n'est pas non plus culturel, religieux, traditionnel, intéressé, méprisé, mérité ou acquis, imposé ou facultatif, et tout ce que l'homme peut encore imaginer. De surcroît, l'amour agapé n'est pas d'abord une question de festivité, de convivialité, de fraternité, d'amitié, de familiarité, de camaraderie, de charité humaine, de bonté, de générosité, et que sais-je encore. En d'autres termes, rien, non absolument rien de ce qui n'est qu'humain peut définir l'amour, agapé, et le manifester. Mais alors c'est quoi l'amour? Vous rappelez, il y a quelques années en arrière, il y avait dans tous les journaux des réponses à la question « C'est quoi l'amour ?» L'amour, c'est... Quelle est maintenant la définition biblique de l'amour agapé? Vous êtes bien assis? Je vous prie donc d'attacher votre ceinture. L'amour agapé, dans sa nature divine, c'est la volonté inconditionnelle de Dieu, c'est la résolution déterminée qu'il a prise en son cœur, c'est-à-dire en Christ, décision divine, consciente et intelligente, bref, c'est sa nature éternelle, sa personnalité souveraine, celle de considérer. Vous avez deviné? Celle de considérer l'autre avant soi-même, de l'accueillir tel qu'il est, d'en prendre soin, de l'aimer, de le chérir et de lui donner tout ce qui est utile et nécessaire à son bonheur parfait. Quand nous nous marions, nous qui sommes mariés, et quand on dit les vœux, que dit le pasteur? Et que promettent les conjoints? Oui, je promets d'aimer mon épouse, de la chérir, d'en prendre soin. Ah, ah. Et que dit Jésus au sujet de l'amour par rapport à la parabole du bon samaritain? Relisez donc cette parabole et vous saurez exactement ce qu'est l'amour. Dès lors, l'amour accorde à l'autre une valeur et une importance infinie, de telle sorte que celui qui aime ainsi donne sa vie pour l'autre, pour son bonheur suprême. En un mot, l'amour agapé, c'est le don de soi pour l'autre, en vue de son bonheur éternel, selon qu'il est dit, Dieu a tant aimé, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi donc, Dieu Père s'est donné à Dieu Fils, à son Fils. Et Dieu Fils s'est donné à son Père. Et ensemble, ils se sont donnés au monde pour le sauver de son péché, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quel amour! Quel insondable amour! Deuxième élément, ou la deuxième chose que Paul démontre dans ce 1 Corinthiens, dans ce passage de 1 Corinthiens 13, c'est les dimensions divines de l'amour. La nature divine de l'amour, les dimensions divines de l'amour. Encore une fois, dès que nous considérons les dimensions éternelles de cet amour qui ne périt jamais, qui englobe tous les aspects de la vie divine et humaine, qui se manifeste dans les grandes choses comme dans les petites, de cet amour qui peut tout, que rien ne décourage ni n'arrête, et qui par-dessus tout non seulement ne fait pas le mal, mais qui d'une manière objective et active fait le bien même à ses ennemis. Ainsi, quand on réfléchit à la grandeur de cet amour, et quand on décide de l'accomplir selon Dieu, alors, et alors seulement, on est convaincu de sa divinité, de sa spécificité divine. On accepte que Dieu seul détienne une telle puissance, qu'il est le seul à posséder la prérogative céleste de révéler cet amour et de le donner à qui il veut, quand il veut, où il veut et comme il veut. Pourquoi ? Parce qu'alors on se rend compte à quel point cet amour est élevé au-dessus de nous et éloigné de nos petites et faibles pensées humaines, si intelligentes soient-elles. Quand on prend la décision, la résolution dans son cœur, avec l'aide du Seigneur, par la puissance de l'Esprit, de mettre en pratique l'amour agapé, alors je peux vous dire, et c'est ce qui me concerne, ce qui vous concerne, vous le savez devant le Seigneur, mais en ce qui me concerne, quand j'ai enfin compris un tout petit peu ce que veut dire l'amour agapé, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, alors je peux vous dire, je me suis retrouvé dans mes petits souliers. Même dans mes petits souliers, je ne me retrouvais plus. À tel point que j'ai commencé de prier, Seigneur, aide-moi à aimer ma femme comme je dois l'aimer. C'est facile de dire, chérie, je t'aime. C'est très facile, quand c'est normal, plus ou moins. Mais aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église, c'est toute une vie, c'est tout un apprentissage. Et plus tôt on commence, plus on est béni. Ma femme est ici, vous pouvez lui demander. C'était pas toujours rose à la maison. Mais vous pouvez lui demander si, par rapport à son mari qui est là sur la chair et qui vous prêche, s'il y a eu au moins une toute petite amélioration. Demandez-lui. Dis donc, Ruth, il y a eu une petite amélioration chez ton mari? Il commence un peu à t'aimer comme Christ a aimé l'Église, à se donner pour toi, comme Christ s'est donné pour l'Église, à te considérer comme plus excellente que lui, à te donner une valeur infinie au-dessus de tout ce qu'il peut imaginer, qu'il ne cherche pas seulement ses intérêts, mais aussi les tiens. Il n'y a pas de plus grand amour, a dit le Seigneur Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus ajoute, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à apprendre et pas mal de choses où j'ai dû demander pardon. Mais vous savez quoi? Et ce qui me fait plaisir, ce qui m'encourage, pour Ruth, pour moi, c'est que le Seigneur, comme il a été dit dans la prière, nous a aimé le premier. Et quand Jésus a demandé à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu comme ceux-là ?» D'abord, Pierre a répondu, « Oui, je t'aime » avec agapé, le mot agapé. Puis quand la troisième fois, Jésus lui demande, « Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-là ?» Vous savez ce que Pierre a répondu ?« Oui, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Mais il a utilisé le mot ou le verbe philéo, philia. Je termine en disant ceci. Mes frères et sœurs, c'est bien de connaître l'idéal, et il faut savoir ce que Dieu veut. Mais revenons sur terre et sachons que nous sommes en route vers le ciel, vers la gloire éternelle, que nous marchons dans la sainteté vers le but, vers la gloire de Dieu, et que nous avons besoin de grandir et de marcher de philéo en philéo jusqu'à agapé, jusqu'à ce que notre amour pour l'autre, pour notre épouse, pour notre conjoint, pour notre frère, pour notre sœur, pour notre prochain, pour notre voisin, devienne de plus en plus un amour strictement, de plus en plus un amour spécifiquement agapé. N'allons pas grailler dans notre cœur pour essayer de dire, ah oui, là c'était philéo, C'était l'amour un peu humain. Là, c'était vrai. Ouh là, alors j'ai aimé. Ouh là, j'ai aimé, j'ai fait du bien. J'ai, avec l'amour agapé, si Dieu n'est pas content avec moi, alors... Ouh. Non. Une chose est importante. Croyons, obéissons au Seigneur et croyons que le Seigneur veut mettre dans notre cœur cet amour incroyable. L'amour agapé qui va abonder toujours plus et qui sera toujours davantage manifeste aux yeux de tous. Comme Paul pouvait dire à Timothée, que tes progrès soient évidents